Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 18 juillet 2022 à Tampa, en Floride, dans l'Amalfi Arena. Jimmy Smith, Corey Graves et Byron Saxton sont aux commentaires avec moi pour cette analyse exceptionnelle. L'ami Giscal, c'est Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde, comment vas-tu?
Bien, 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 je vais plutôt bien. Comme tu sais, voilà, je suis à l'aise dans le studio. Il y a la team caleçon, la team slip et à la team mise.
Ah oui, exactement, c'est ça.
Les couilles à l'air, assis dans le studio, voilà, avec...
Voilà, bien.
Voilà, le micro bien rosé. Droit.
Voilà, exactement, voilà. Bien droit.
Il fait chaud, on va se rafraîchir. Avec ce Monday Night Raw qui est l'avant-dernier avant SummerSlam, je ne sais pas si tu en es rendu compte, Giscal.
Eh ben, écoute, je m'en suis rendu compte au moment de la septième fois où ils ont mis un package vidéo où il y avait marqué SummerSlam, c'est dans 15 jours, machin, tout.
il y a des moments où ils y allaient fort. T'avais l'impression que c'était, genre, ils avaient perdu l'antenne et qu'ils passaient des petits packages vidéo de backup quand il y a des soucis de diffusion.
Non, non, écoute, j'ai bien compris. J'ai bien compris. On a bien compris.
Ah, je croyais même c'est que c'était le gomme show pour tout dire. Donc du coup, il y avait des moments où je trouvais ça. Je me dis, mais attends, on y est déjà. Non, on n'y est pas.
Je pensais que c'était le pay-per-view, moi, d'ailleurs. Tu vois.
Ah oui, évidemment. Et puis un SummerSlam, ça s'ouvre évidemment avec Titus O'Neil, notre représentant global, l'ambassadeur global dorénavant de la WWE. Alors un titre qui a dû être créé sur mesure hein, pour. L'ancien champion 24-7, le Hall of Famer, Titus O'Neil, ça fait bizarre de le dire, mais Titus O'Neil est Hall of Fame grâce à ses bonnes actions, hein, puisqu'il il est le récipient, comme on dit, du Warrior Award.
C'est ça.
Pour toutes ces bonnes actions. Alors, c'était un drôle de discours, c'était une drôle de façon d'ouvrir le show. Hein. Il nous a fait un discours, Titus O'Neil, nous dire, on est bien entre nous, tout le monde est le bienvenu, venez comme vous êtes. Comme le dit célèbre enseigne de fast-food. Ouais. Ouais, ouais. Il nous parle de safe space, les mots sont bien choisis. Hein.
Les mots sont très bien calibrés. Ouais.
Ouais. On n'est pas là pour parler de politique, de religion, ou quoi que ce soit de controverse. Ici, c'est un endroit où vous êtes en sécurité, un safe space, un paradis pour tout le monde. Gardez ça bien en tête et bienvenue à Monday Night Raw. Écoute, c'était chelou. Là, il nous a fait son petit RP.
Moi, j'ai bien aimé.
On a bien aimé. Je comprends que tu aies bien aimé parce que tu aimes Titus O'Neil. Déjà, c'est un.
Moi, j'adore. Chic type. J'adore Titus. Alors bon, oui.
Puis, par contre, le public était un petit peu. On savait pas trop sur quel pied danser parce que, quand même. Oui. Notamment quand il nous a dit ici, on n'est pas là pour parler de politique, de religion. Les gens étaient, mais attendez, mais de quoi on parle?
Oui, on sait quoi.
Oui, il n'y a pas de problème. C'est genre. En même temps, tu avais des fois l'impression que c'était un avertissement, quoi. Genre, faites gaffe.
Ouais, c'était un peu genre, attention, hein. Je t'ai vu, toi, là-bas, avec ta pancarte.
Et tes revendications.
Non, mais ouais, je sais pas. Après, c'était le régional de l'étape. Alors, c'était une façon de faire un peu de cheap pop, peut-être, en entrée, là. Parce que je trouve que on était à Tampa. Il est de Tampa. Alors, du coup, c'était sympa. Mais. Oui, c'est vrai que c'était à la fois sympa et chelou, je suis d'accord, c'est-à-dire que tu te dis, moi, je l'écoutais parler, je dis, je sais, enfin, c'est exactement pour ça que je regarde la WWE, d'ailleurs, j'ai pas du tout envie, quand je regarde un show de catch, de me faire emmerder par des histoires de politique, de religion, de je sais pas quoi et tout, donc c'est très bien, continuez comme ça, les gars, mais c'est exactement ce que doit être une émission de divertissement, ça doit pas, on n'est pas obligé de parler de tout ça, ça nous fait du bien un petit peu de temps en temps de sortir de tout ça. Mais j'ai pas spécialement compris pourquoi il y avait besoin de le rappeler. Alors est-ce que c'est une sorte de subtil petit message en mode avec toutes les controverses qu'il peut y avoir en ce moment de dire écoutez prenez pas la tête, on gère, hein, vous embêtez pas avec ça. laissez les professionnels faire leur travail. peut-être que c'était un petit peu ça derrière, mais bon, écoute, voilà, ça m'a pas déplu, parce que de temps en temps, ça fait du bien de recadrer aussi un petit peu les choses, dire, écoutez les gars, vous regardez un show de catch, donc si vous êtes plutôt intéressé par ce qui se passe, des polémiques, des machins, des controverses, des trucs, bah écoutez, passez votre chemin, c'est pas ici. Donc, moi ça me déplaît pas comme petit discours.
Le royaume du divertissement.
Exactement.
Donc, on est là pour se divertir sous les champs des otaries. Parce qu'on a entendu toutes les otaries aboyer. C'était marrant. Il y a quand même une sympathie pour le bonhomme qui est assez drôle, le mec, vraiment. Tétus Sonil, il a plutôt réussi son chemin. Bon, allez, on passe au vrai opener, parce que le mec veut nous divertir. Bah, divertissez-nous, hein, voilà. Si vous voulez nous divertir, vous avez 3 heures pour nous divertir, donc va falloir y aller, et on va voir ensemble s'ils ont réussi cette mission de nous divertir, ou si, au contraire, ils ont créé, justement, cette fameuse polémique dont il a parlé. On a donc un petit récap sur cette rivalité chaude entre Becky Lynch et Bianca Belair, avec le match face à Carmella, qui était partie en sucette. Et Becky ouvre le show. Elle nous dit, ben voilà, elle nous parle à l'imagerie de train. Elle est le train de la WWE. Becky Lynch, elle nous parle du Big Time Beck Express qui roule vers SummerSlam. Elle nous explique que le train Becky ne s'arrête pas aux gares. C'est les gares qui s'arrêtent sous le passage du train Becky. Et qu'elle compte bien aller direction SummerSlam pour récupérer son titre. D'ailleurs, elle nous explique qu'elle est allée voir l'autorité, Adam Pearce et compagnie, probablement pour avoir un match à SummerSlam. Et visiblement, elle a été écoutée, elle a été entendue, puisque la gagnante de ce soir lors du match entre Bianca Belair, votre championne, et Carmella, affrontera ni plus ni moins que Becky Lynch à SummerSlam. Alors là, c'est un petit peu inversé, je trouve, là, ce discours. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Genre la récompense, c'est d'affronter Becky Lynch et pas d'avoir un title shot, visiblement.
Exactement. Ouais. Bon, c'était ça qui était d'ailleurs assez rigolo dans sa façon de présenter les choses. C'est marrant. C'est vrai qu'elle souffle le chaud et le froid un peu toutes les semaines, Becky Lynch, enfin plutôt les bookers avec elle. Mais là, j'ai trouvé que l'angle trouvé était pas mal. C'est-à-dire que, en fait, elle est très instable. En fait, ça va bien avec son personnage instable. C'est-à-dire que une semaine, elle est complètement au fond du seau, et puis hop, la semaine d'après, elle est, elle ouvre Monday Night Raw. Elle est torse bombé, toute fierasse, là, comme ça, c'est moi la meilleure, c'est moi qu'on va affronter à SummerSlam, tu l'as très bien dit, c'est pas moi qui vais affronter la championne à SummerSlam, c'est la vainqueur de ce soir qui va m'affronter à SummerSlam. Donc là, d'un seul coup, paf, son ego est de retour, son indicateur de confiance, sa boussole est de retour à 100%, alors qu'elle était au fond il y a 2 semaines. Donc c'est assez rigolo, parce que ça va bien avec son personnage qui est complètement fou, complètement déjanté. C'est sans doute d'ailleurs, je pense, la seule de la division féminine qui a un vrai personnage. Et donc c'était plutôt marrant à suivre avec son... Avec, comme l'a dit Corey Graves, parce que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus là, mais donc ces vibes de Lilo là, de Cinquième Élément là, qui était dans son costume là, qui était assez sympa. Donc très très bonne entrée en matière, et qui, je trouve, a le mérite d'apporter un peu de dynamisme, un peu de fraîcheur là. Donc c'était cool.
Ouais. Bon, il n'en faut pas plus pour voir débarquer Bianca Belair, donc qui a son match face à Carmella ce soir. Et Bianca explique à Becky Lynch que c'est pas l'histoire du comeback de Becky Lynch de WrestleMania. Hein. Non, c'est l'histoire du comeback de Bianca Belair à SummerSlam. Rappelons-nous, hein, évidemment, le retour de Becky Lynch qui avait coûté cher à Bianca Belair, puisqu'elle avait perdu son titre très rapidement. Je ne sais plus c'était en combien de temps, là, en quelques dizaines de secondes.
Ouais. Disons, allez, 20, 25, 24, 27, 24, 26. Quelque chose comme ça, je sais plus. Ouais,
vous nous corrigerez dans les commentaires.
Pourtant, il le répète tout le temps et tu vois, on retient pas. Mais c'était 24.
Qu'il fasse un t-shirt. Elle compte bien, donc voilà, elle compte bien battre ce soir Carmella et aller botter le cul de Becky Lynch à SummerSlam. Donc c'est l'histoire de deux rédemptions en fait, mon bon Giscal, qui s'affrontent. Ça, c'est plutôt intéressant. La rédemption de Becky Lynch complètement dans la désillusion et la rédemption véritable de Bianca Belair hein, qui a chuté à SummerSlam et qui a dû repartir depuis le début. Les deux femmes hein, ont un petit peu reparti tour à tour, un peu en décalé, et elles vont s'affronter une bonne fois pour toutes à SummerSlam, ce qui va construire évidemment une superbe affiche. Alors, s'en est suivi un match dans la foulée entre hein, Bianca Belair et Carmella. Carmella, pareil, qui arrive et qui fait son intro, qui dit qu'elle va gagner, elle se moque de Bianca Belair. Il y a une brawl dans la foulée, hein. Bianca Belair a un petit peu laissé sonner par les deux méchantes qui l'ont attaqué en même temps. Le match, du coup, est d'abord en la faveur de Carmella, hein, puisque Bianca Belair, ça l'a un petit peu sonné. Elle va essayer d'en profiter, elle va envoyer, je crois, Bianca Belair à un moment donné dans les escaliers de fer. Mais voilà, Carmella ne va pas pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout. Bianca Belair est trop forte, d'ailleurs. Au petit passage, Carmella, super, hein, qui s'est trouvé un nouveau surnom, comment on l'a dit, The Great Ass of the Badass, quelque chose comme ça, je crois.
Greatest Ass, ou je sais pas, ou un truc, c'est pas juste, elle est pas juste badass, c'est aussi The Greatest
Ass. Ouais, c'est
un truc comme ça, c'était pas mal. Ça sonnait beaucoup mieux quand elle l'a dit que quand on essaye de le répéter.
Oui, malheureusement, mais tant mieux qu'elle le garde, hein, c'est sa cache-phrase, c'est pas la note. Moi, je sais pas si je pourrais dire ça, par exemple, je ne sais pas.
Ben, ça dépend, ça revient à la discussion de Slip ou quel son qu'on avait tout à l'heure, ça dépend aussi beaucoup de ça.
Je ne sais pas si je suis vraiment un badass, toi, je sais pas. Bref. Et donc on retourne au match et Bianca Belair parvient à un moment à choper comme ça Carmella qui avait fait un moonsault là, et elle bloque, elle compte le crossbody, le transforme en souplesse, elle place son KOD, 1, 2, 3, victoire de Bianca Belair donc, qui conserve son titre. Écoute, moi Giscal, au-delà du match... Déjà, parlons de Carmella. J'ai trouvé que Carmella avait fait plutôt une bonne prestation. Elle est vraiment une très bonne mid-cardeuse, Carmella. Elle tient bien son perso. Et puis, son match était tout à fait correct. Même si je sais que tu n'aimes pas trop parfois les affrontements verbaux qui se jouent en mode...
avec les doigts. Rue, ouais, avec les doigts qui volent, là, comme ça. bitch, comme ça, là. Ouais, non... c'est pas ma cam. Après ça marche. Carmella, ça marche pas trop mal. Je suis assez d'accord. C'est plutôt une valeur sûre, je trouve, de la mid card féminine à la WWE. C'est un bon élément. Elle joue très bien la heel. Elle connaît bien les ficelles. Tu sens qu'elle est expérimentée. Elle fait pas trop d'erreurs et elle a un personnage dans le ring qui marche pas trop mal comme ça en heel. Donc elle a fait une prestation, comme tu dis, qui est correcte dans le match. Mais bon, voilà, c'était une défense de titre. Bah, c'était un peu à l'image de ce qu'elles ont fait à Money in the Bank, c'est-à-dire que c'était sans beaucoup de relief. Elles ont récité un peu 2-3 classiques, mais bon, c'est quand même pas dingo. Je trouve qu'ils ont beaucoup abusé de cette histoire des comptes à l'extérieur, et beaucoup de comptes à l'extérieur.
Ouais. Alors, il y avait la stipulation, t'as raison.
Il y avait la stipulation, donc bon, ils en ont beaucoup joué. Pourquoi pas, mais ça reste quand même ça reste un match assez que j'ai trouvé assez long pour l'objectif accompli, qui était quand même de se débarrasser de Carmella, et j'ai pas trouvé la victoire de Bianca Belair du coup très impressionnante, parce que au final elle s'est quand même fait malmener pendant 10 minutes à se faire beaucoup décompter à l'extérieur et tout. Je sors pas de l'émission en me disant waouh, Bianca Belair, c'est ça y est, elle a mis Carmella derrière elle, elle va pouvoir passer à autre chose. C'est pas trop ce qui découle de ça, et ça aurait dû plus l'être, je trouve. Donc ça, de ce côté-là, c'est un petit peu raté. Après, je reviens plus sur la petite passe d'armes verbale entre Becky Lynch et Bianca, que j'ai trouvé assez intéressante pour le coup. C'est des rares petits éclairs de soins apportés à l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que enfin on donne, tu vois, Bianca Belair, moi, je l'aime bien, impressionnante physiquement. On a déjà parlé, elle connecte bien avec les fans, plutôt une bonne championne, parce qu'elle suscite de belles réactions, fait des belles prestations, c'est bien. Mais je trouve que c'était quand même un peu fade, un peu plat comme règne. Parce que bon, elle enchaîne un peu les victoires, un peu de seconde zone, on va dire. Et là, j'ai trouvé assez intéressant d'essayer de lui donner vraiment une motivation à son personnage, parce que enfin, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec sa challengeuse, donc en l'occurrence Becky Lynch. Et ce côté un petit peu, bah, c'est un peu dans le prolongement de la promo de Becky Lynch, c'est d'inverser finalement le rapport de force, de dire bah voilà, c'est Becky Lynch qui arrive, qui dit c'est la vainqueur de ce soir qui va m'affronter à SummerSlam. Et c'est ma redemption story, j'étais au fond et je lâche jamais, regardez, je reviens et tout. Bon, qui est un discours un peu face, mais qui est servi de manière heel, donc ça marche pas mal. Et en fait, t'as Bianca qui se réattribue ce truc-là, je trouve ça assez sympa de se dire non, t'as rien compris, c'est mon histoire de rédemption parce que j'ai pas oublié ce que t'as fait il y a un an. Et je vais définitivement mettre les points sur les i et gommer cette erreur. Et donc c'est ma redemption story alors que c'est elle la championne, tu vois, donc je trouve qu'il y a une sorte de bascule qui se fait entre les deux qui est plutôt intéressante parce que ça reste une rookie par rapport à Becky Lynch, donc je trouve que le positionnement est pas mal. Et enfin on essaye de raconter un petit peu un truc, tu vois, j'aurai l'occasion de revenir dessus plus longuement dans la review, mais c'est tellement rare que ça mérite quand même d'être souligné. Donc voilà, on se dirige en effet vers un build à SummerSlam qui a du sens, qui fait des rappels à l'histoire, qui joue un petit peu l'originalité, donc j'aime bien.
Je te rejoins complètement. C'est vrai que souvent on se retrouve des fois un peu embêté avec ces babyface qui sont champions, où finalement ils n'ont plus véritablement de motivation. Là, on a en trouvé une, et finalement le titre est presque secondaire dans cette histoire, puisqu'on nous parle effectivement de la rédemption. Bah oui, laver l'affront, cette humiliation là devant des millions et des millions de téléspectateurs. Il y a un an, à SummerSlam, le titre, c'est pas le plus important. Là, c'est il faut effacer ce scénario, cette chose horrible qui lui est arrivée l'année dernière. Et les deux ont la même motivation, et c'est ça qui est très bien, c'est que c'est ce qui marche le plus dans l'histoire de méchants contre gentils. C'est que finalement, les gentils et les méchants ont le même objectif, mais ils n'y arrivent pas de la même façon. C'est ce qui fait qu'on a un gentil
exactement.
D'un côté.
C'est d'ailleurs, comme tu dis, c'est parfois c'est un écueil presque millénaire dans le catch. C'est compliqué d'avoir un champion babyface, beaucoup plus dur d'avoir un champion babyface. Intéressant qu'un champion heel, parce que voilà, champion heel, il antagonise tout le monde, il énerve tout le monde, il a tout le monde qui lui court après, et il a tout un tas de ressorts potentiels pour prolonger les histoires, s'enfuir, filouter, tabasser, enfin bref, tout ça. Un champion babyface, en fait, c'est un babyface, généralement, ça marche beaucoup plus facilement dans la position du chasseur, parce que c'est le côté, justement, redemption story, c'est le challenger qui vient et qui détrône et qui arrive à surmonter les obstacles pour arriver au Graal. Et une fois qu'il est au sommet de la montagne, c'est difficile de garder un babyface intéressant, parce qu'il faut arriver à lui retrouver une motivation qui ne tourne pas autour de juste de questions d'ego, de je suis le meilleur et tout, parce que tout de suite on a les risques de retomber dans des traits plutôt de heel justement. Et donc j'ai trouvé que là voilà, en 10 minutes ils avaient réussi à faire un truc qui n'était pas si mal. C'était vraiment d'arriver à trouver un sens, une motivation, une épaisseur de personnage aussi à Bianca Belair, qui n'est pas juste que une fille qui sourit et qui agite sa couette, mais qui a quelque chose à raconter, qui a quelque chose à prouver. C'est assez bien.
Ouais, écoute, je te rejoins totalement. J'ajouterais quand même la petite cerise sur le gâteau, quelque chose qu'ils n'ont pas saisi. Je m'attendais presque à ce que ça apparaisse naturellement. Elle a tellement parlé de c'est 46 secondes le match à SummerSlam qui a duré du match
36.
À SummerSlam. On dit tu m'as battu en 46 secondes. Et on va voir si tu arriveras à me battre en 60 minutes. Et j'aurais aimé qu'ils me mettent un Iron Woman.
Ils ont pas mis l'Iron Man.
À SummerSlam. Parce que l'affront a été battu en 46 secondes, mais est-ce qu'elle arrivera à la battre en 60 minutes ? On aurait pu rajouter cette grosse tipu là pour SummerSlam.
C'est dur maintenant. C'est dur. Ça se fait. En tout cas, s'il y en a deux aujourd'hui, de toute façon, deux à la WWE qui pourraient le faire, c'est elle. Donc il y a que.
Non, si tu veux mettre cette tipu pour Liv Morgan versus Ronda Rousey, tu le dis.
C'est plus délicat ça. Ouais.
Après, on a un autre main event avec une grosse stipulation dans une autre division. Faudrait pas faire de l'ombre non plus. Attends, faudrait pas déconner. Allez, on quitte la division féminine. On a un KO show ce soir. Kevin Owens est de retour et ça fait plaisir. Le Canadien nous fait plaisir, Giscard, d'être de retour.
Ah oui, je suis très content de retrouver Kevin Owens. Où était-il ?
C'est ça. Où était-il ? Eh bien, il nous l'explique à nous, spectateurs, et aussi à Riddle, son invité, nous explique qu'avec toutes ces histoires avec Ezekiel, Elias et Elrond, là, il a pété un câble, il s'est perdu, il avait besoin de souffler, de faire un break, il était en burn-out, et du coup, il est parti dans la forêt, dans la nature, une petite retraite dans la nature, il a soufflé, il s'est déconnecté, Kevin Owens, il s'est connecté, parce qu'il devenait complètement dingo, et il a eu raison. Mais pendant qu'il était dans sa petite cabane, là, il avait quand même Internet, visiblement, ou la télé, ou les journaux, je ne sais pas. Il a vu qu'un homme qui avait finalement beaucoup de points communs avec lui, Riddle, était très calme, toutes les semaines, il est relax. Voilà, il est relax. Alors, bon, il a sa petite idée pourquoi Riddle est toujours relax. Il fait plusieurs fois l'allusion à voilà, il dit voilà, qu'il est dans son monde. Il est dans son monde, Riddle. Dans son monde enfumé, et lui dit bah voilà, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu quoi. Il est inspiré finalement par Riddle. Il dit bah voilà, et du coup il a tourné la page. Ezekiel Alea s'est terminé. En fait non, il déconne. Il dit en fait il lui souhaite le pire qui puisse arriver évidemment, et il propose à Riddle tout simplement une alliance. Il lui dit, écoute, toi, t'as été comme moi, t'as été trahi ce soir. Alors, il fait, voilà, ce soir, t'as un match contre Seth Rollins, c'était mon meilleur ami, il m'a trahi, mais toi aussi, t'as eu Randy Orton, c'était la vipère. Voilà, on pourrait devenir potes, toi et moi, on a beaucoup, beaucoup de points communs, on a perdu nos amis. RK Bro, c'était cool, mais qu'est-ce que tu penses de Bro KO ? Bro KO, ça pourrait être encore plus gros, cette histoire, ça serait incroyable. Là, Riddle dit, mais attends, mais oui, Riddle lui dit, mais non, t'es un gros menteur. L'autre dit, mais Orton aussi, c'était un menteur, pourtant c'était ton pote, c'était comme la vipère, le mec le plus traître de l'histoire de la WWE. Et là, il a pas tort. Et là, ça fait pas plaisir à Riddle, qui dit, attends, tu parles pas mal comme ça de mon pote. Sauf que la musique de Rollins retentit. Au début, on croit à un coup bas, une carbistouille, une embrouille de Kevin Owens. Mais non, c'est pas vraiment ça. Et en fait, Rollins, il arrive quand même par derrière et il lui fait un gros stomp à Riddle. Et Rollins est bien content de son méfait. Un petit peu plus tard dans la soirée, il battra Ezekiel. D'ailleurs, je trouve qu'il a passé beaucoup trop de temps là pour battre l'ami Ezekiel.
C'est un peu compliqué.
Ça aurait dû être réglé ça en 2 minutes, ça aurait dû être réglé cette histoire d'Ezekiel. Ouais.
Même écoute, si je suis quand même bluffé du match qu'ils ont fait, moi perso. Mais...
Ah oui, d'accord. Mais bon. Bah, écoute, on en reparlera juste après si tu veux. Oui.
Vas-y, vas-y.
D'abord, le retour de Kevin Owens. Magistral.
Plaisir.
Magistieux.
Plaisir d'offrir. Non, très très sympa. Très sympa. Bon, de toute façon, il sait tout faire. Donc, c'est sûr que voilà, juste le KO show, moi, quand j'ai vu qu'il allait avoir ça, j'étais content. Il a eu la petite passe d'armes avec Riddle, était très fun. Tu l'as dit. Cette proposition d'alliance était assez inattendue, parce que tu savais pas trop où est-ce qu'il voulait en venir au début, hein, dans son speech, Kevin Owens. En fait, c'était le Kevin Owens Show, il est censé interviewer son invité, mais en fait, il faisait que parler. Donc, et donc, il déroulait son truc. Donc, grosse pop pour le Bro KO, qui, c'est vrai, était assez tentant. Tu lui as dit, bon, après, tu doutais, voilà, c'était plus pour la vanne qu'autre chose. Et cette intervention de Seth Rollins, donc... Kevin Owens qui vient s'intercaler d'une certaine manière dans cette rivalité naissante entre Seth Rollins et Riddle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que Seth Rollins et Kevin Owens, ils ont une histoire ensemble. Donc je suis assez curieux de voir où ça va mener. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le segment était très efficace. Encore une fois, ils ont bien su jouer sur les forces du personnage de Riddle, sympathique, rigolo. Et donc la dynamique était plutôt bonne. Et puis l'arrivée de Seth Rollins, là, le stomp, le double stomp, et il est tout fier de son méfait, comme tu l'as dit. Donc bonne avancée cette semaine. Je continue à suivre ça avec plaisir.
Ouais, le retour de Kevin Owens qui fait Voilà, qui réchauffe les cœurs, là. C'était assez inattendu, on se demandait que le pauvre, voilà, quelles sont ses nouvelles. C'était bah, difficile d'avoir des nouvelles. L'homme s'était tout simplement réfugié dans la forêt, une forêt canadienne, là. Mais il est revenu et ça nous fait grand plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Et donc, du coup, tu aimerais faire une petite case dédiée à Ezekiel, si j'ai bien compris.
Oui, petite case dédiée, parce que... Enfin, case dédiée... En fait, non. C'est, en fait, la case dédiée, elle est plutôt pour Seth Rollins, parce que... Quand je dis je suis bluffé, c'est que c'est... Enfin, de toute façon, Seth Rollins, en ce moment, il marche sur l'eau.
Évidemment.
Dès qu'il est à l'écran... tout devient exceptionnel et en fait je suis assez stupéfait du match en fait qu'il a réussi à sortir de Ezekiel, c'est-à-dire que c'était 12 minutes 11 minutes enfin c'était quasiment autant que c'était sans doute aussi long que le match pour le titre qu'on a eu en opener, mais sauf que là par contre j'ai pas vu le temps passer et c'est de toute façon c'est incroyable à quel point il arrive à bumper comme un dieu pour n'importe qui. Je pense qu'il pourrait catcher avec un balai ce mec là sans faire offense à Ezekiel, je trouve que, il lui a offert sans doute un de ses meilleurs matchs, je pense, sur un plateau. Donc voilà, c'était juste ça, parce que, fondamentalement, je suis d'accord, c'était peut-être un peu long. Seth Rollins, ça a peut-être pas besoin d'autant galérer. C'est un petit peu le même commentaire que pour Bianca face à Carmella. Mais au final, c'était tellement kiffant à regarder, j'ai trouvé. Moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé ce match. Ça faisait longtemps, en plus, qu'on n'avait pas vu l'enchaînement de Superplex depuis la troisième corde, plus Falconaro derrière qui passe, qui est toujours un petit régal, quand même. Et puis ce contre, en plus, du pedigree, j'ai trouvé assez stylé derrière. C'était... Voilà. Petit big up aux deux hommes, et surtout à Seth Rollins. Il peut rien rater, je pense, en ce moment. C'est pas possible.
Non, bah écoute, il a pas intérêt à se rater parce qu'il affronte Riddle à SummerSlam, donc c'est un match.
Ouais.
Il y a un match avec tout simplement beaucoup d'enjeux pour Seth Rollins et beaucoup d'enjeux pour Riddle. Le Judgment Day, on en est où?
On en est où
de cette affaire? Alors, Judgment Day, on a une petite. Ils embrouillent Dominic Mysterio, ils disent bah voilà, il faut rejoindre le Judgment Day. C'est parce qu'on le veut d'ailleurs, c'est pas vraiment pourquoi. On sait pas pourquoi ils en ont autant après Dominic Mysterio finalement. Ils ont besoin d'être trois, ils sont que deux. Je crois que c'est aussi simple que ça, c'est mathématique en fait, la raison pour laquelle ils en ont après Dominic Mysterio. Puis ils se disent, c'est un mec jeune, on peut le manipuler facilement, peut-être son esprit. Ce soir, il y a un match entre Rey Mysterio et Damian Priest. Dominic et Finn Balor sont là. Rey Mysterio et Damian Priest donc s'affrontent tout simplement dans ce match. Rey Mysterio prend le contrôle, il passe un slingshot splash. Après c'est Damian Priest qui balance ses coups de poing, là, ses gros coups de pied dans le coin du ring. Damian Priest fait parler sa puissance et Mysterio fait parler son arsenal de high flyer. Dominic finit. Alors, Priest parvient à obtenir la victoire avec visiblement un Razor's Edge. Hein, il a piqué un petit peu une prise de Edge. Et puis à la fin, donc c'est la victoire pour Damian Priest. Et ils s'en prennent tous les deux à Rey Mysterio. Dominic. Et doit accepter de rejoindre le Judgment Day si nous devons continuer de taper sur la tête de leur papa avec une chaise notamment. Un concerto qui se prépare et finalement Dominic dit d'accord, je rejoins le Judgment Day, c'est bon. Et les autres le regardent, Damien Priest regarde, fait tu croyais que ça allait être aussi simple. Et là boum, il l'attaque avec le coup de chaise, il se retrouve comme un con Dominic à se faire tabasser. Donc c'est pas terminé cette histoire de Judgment Day. Ils avaient enfin un troisième membre et puis finalement non, ils en veulent pas.
Qu'est-ce que c'est l'histoire? Drôle de. Alors il y a du bon et il y a du pas très très bon. Moi c'est le genre de truc j'encourage. Je mets plutôt un point positif parce que j'ai l'impression qu'on allait un petit peu plus quelque part que les semaines précédentes. Il y avait une volonté, on va dire, d'essayer de raconter quelque chose qui était déjà un petit peu plus pertinente, dans le sens où ça aurait été vraiment un peu bidon, là, le coup de « je tabasse ton père, je vais lui faire un concerto, alors tu nous rejoins », Enfin, ouais, je trouvais que c'était plutôt bien vu en termes de développement un peu de Priest et Balor, en fait, de tendre un petit peu un piège à Dominique, de dire non, mais en fait, t'as raté le test, t'aurais dû casser la figure de ton père et en fait, t'aurais dû prendre la chaise et lui exploser la face. Je trouvais que c'était assez puissant quand même comme discours. Et là, ça en dit un peu plus long sur la mentalité du groupe. Qui est en fait complètement, enfin c'est des fous furieux. Enfin tu vois c'est tu visualises un petit peu plus la dangerosité un petit peu des mecs quand ils te sortent un truc comme ça. Tu vois tu dis ok parce que jusqu'ici les reproches qu'on avait fait les semaines précédentes ensemble lors des reviews c'était bah pff, en fait c'est quoi l'intérêt de vous rejoindre? Enfin vous servez à rien, on comprend pas trop où est-ce que vous voulez aller. D'ailleurs vous-même c'est quoi votre motif et tout. Je dis pas que c'est clair comme de l'eau de roche maintenant, mais je trouve qu'il y a une dimension qu'il n'y avait pas avant. Je trouvais que voilà cet angle d'essayer de pousser, de vraiment faire en sorte que les mecs qui recrutent adhèrent complètement à leur mentalité qui est totalement barrée, déjantée, dark, destructrice et tout. C'est quand même déjà mieux que de juste vouloir recruter le premier péquenaud venu. Parce que bah, Dominique Mysterio, c'est un peu le premier péquenaud venu en vrai. Hein. Je suis désolé pour lui, mais voilà, c'est on était face quand même à quatre mecs qui étaient borderline low-card face à nous. Malheureusement, hein, parce que après Rey Mysterio, fantastique, c'est une légende, Finn Balor, super catcher et tout machin. Mais voilà, depuis plusieurs semaines, ça reste quand même borderline low card parce que ils sont traités comme ça. Et c'est du coup un petit peu le pendant négatif de ce que je voudrais dire, c'est que ok, c'est bien, il y a un petit effort, c'était original, c'était sympa, j'ai bien aimé la promo avant, après, le match était relativement cool, ok, court, efficace, mais t'as quand même l'impression de regarder beaucoup de choses pour pas grand-chose, c'est-à-dire t'as quand même l'impression d'avoir quatre mecs face à toi, tu te dis mais t'as envie de passer à autre chose quoi, parce que c'est qu'ils sont tellement tellement loin on va dire en termes de relevance, enfin je sais pas d'intérêt dans la carte depuis des semaines que c'est difficile d'accorder beaucoup d'attention et de crédit à ce qu'ils essayent de faire. Parce que bah voilà, ça reste deux low-carders qui essayent d'enrôler un low-carder dans leur faction, qui n'a pas de ceinture, qui n'a pas de programme, vraiment, qui n'a pas de direction. Donc c'est tu les regardes un petit peu jouer, comme tu pourrais regarder des enfants jouer dans le bac à sable à côté, tu te dis ok, d'accord, moi, je vais peut-être aller voir les grands maintenant. Et c'est pour ça que j'étais un peu partagé là-dessus. J'ai envie d'encourager l'idée. Mais on reste encore quand même très très loin en termes d'exécution de ce qu'il faudrait faire pour relever le judgment day.
Ouais, effectivement, on a eu un frémissement, quoi, un
Ouais.
balbutiement de quelque chose qui pourrait donner de la consistance, une motivation, un rôle à cette faction qui effectivement a besoin d'avoir ouais, cette motivation pour que nous on puisse avoir un intérêt à les suivre, effectivement, plutôt que de chasser les ados là à la sortie des lycées, dire allez, venez, viens rejoindre mon clan
Ouais. Ah, ton
totalement
papa, c'est
dark.
pas un bon papa, nous on va être ton papa. Ouais.
Ouais. Les misfits quoi,
Ouais.
qui vont fumer des bédos dans les toilettes du lycée là. Non,
Ouais, c'est ça,
effectivement,
exactement.
et ok, c'est bien d'être rebelle, mais bon, là il faut quelque chose de plus. Alors, effectivement, il y a peut-être d'ailleurs. La suite au prochain numéro, comme on dit, parce que la semaine prochaine, c'est tout simplement un numéro très spécial. On va célébrer les 20 ans de carrière de Rey
Oui.
Mysterio à WWE. Ses débuts à WWE, c'était il y a 20 ans, mon bon Giscard. Et le Judgment Day a promis
Absolument,
de
absolument.
détruire les Mysterio une bonne fois pour toutes à cette occasion.
Non, mais voilà, il y a des choses à faire, il y a toujours des choses à faire, et j'encouragerai toujours, même, enfin vraiment, à tous les niveaux de la carte, moi ce que je veux, c'est qu'il y ait au moins la volonté de raconter quelque chose et d'essayer de dérouler un truc qui a un peu du sens et qui est intéressant. Si je vois des frémissements un peu qui vont dans ce sens-là, je dis ok, let's go. Tu vois, ça me fait peut-être chier cette semaine, mais peut-être que dans 3-4 semaines, ce sera stylé. Donc allez-y. Mais au moins, il y a quelque chose cette semaine. Donc j'ai trouvé que c'était mieux. Et puis en effet, bah, il y a le Madison Square Garden la semaine prochaine. Il y a le potentiel pour faire quand même un gros truc. Donc voilà. Attendons de voir. C'est mieux, c'est mieux.
Il y a eu de l'embrouille backstage entre les Street Profits et Omos MVP. Ce soir, il y a un match qui a été lancé, un défi qui a été lancé par MVP. Angelo Dawkins va affronter Omos, bon Giscard, le géant nigérien. Des petits packages vidéo qui nous rappellent évidemment le match pour les Tag Team Championship unifié à SummerSlam avec le bon Jeff Jarrett. Comme un arbitre.
Double J. Ouais.
MVP, Montez Ford, les Usos sont ringside. Il y a du monde, il y a du beau monde. Dawkins, le match ne va pas durer longtemps. En une minute, c'est réglé. Il y a une disqualification puisque MVP intervient pour faire tomber Dawkins. Et du coup, Adam Pearce fait hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça se transforme en tag team match player. Les Street Profits affrontent donc Omos et MVP qui reste en costard pour le match. Son pantalon de ville, ses belles chaussures vernies. Il n'est pas content au début, mais bon, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, MVP. Alors, MVP, bah, il retourne, il met les mains dans le cambouis. Les profits qui vont finir par gagner ce match grâce à une disqualification causée par les Usos qui vont les attaquer. Et puis Montez Ford et Angelo Dawkins se font virer un petit peu par Jimmy J et Omos. Omos, voilà, la force tranquille, la force nigérienne. Et puis on a un double shock slam pour finir cette séquence, mon bon Giscard.
Eh ben écoute, j'ai été diverti comme on dit dans le c'est le sport entertainment. J'ai été entertained. Je trouvais ça sympa. Écoute, c'était une bonne façon, une façon utile et habile de mixer un peu les choses parce que ça faisait quand même beaucoup de semaines que. Parce que bon, cette rivalité date de bien avant Money in the Bank aussi, donc avant Money in the Bank, on avait déjà eu le droit à tout un chassé-croisé de match solo, de match tag team, de machin, de 3 contre 3, de 4 contre 4 et tout, pour essayer de faire toutes les combinaisons possibles du Rubik's Cube là, entre Street Profits et les Usos. Depuis post Money in the Bank, c'était Rebelote, Jey Uso contre Montez Ford, et puis un coup Jimmy contre Dawkins, enfin bref, ça recommençait. Bon bah voilà, un petit peu de changement, c'était sympa de voir Omos et MVP contre les Street Profits avec les Usos en ringside, ça permettait de mixer un peu les choses et de proposer autre chose. C'était court, les matchs étaient courts, bien overbookés, c'est-à-dire que je trouve que ça n'a pas excédé ce qu'il aurait fallu, c'était assez dynamique, la fin avec les Usos qui viennent gâcher la fête et du coup les challengers qui se font écrabouiller par Omos. Ça accomplit tout un tas de choses, hein. Ça permet aux Usos de prendre de la hit, les Street Profits ont pu faire tout un tas de gros moves pendant le match qui ont fait qu'ils étaient bien chauds, et puis Omos, ça lui permet de ramasser au passage un petit peu de momentum, puisqu'il est tout, c'est toujours utile. Donc bon an, mal an, j'ai trouvé, et puis on a eu un petit ball-in de MVP, un peu old school, j'ai trouvé toujours fun aussi. Donc non, voilà, bonne petite séquence qui continue à faire monter la sauce. J'attends la semaine prochaine. Fini les matchs parce que ce sera le go home show. Fini les 1v1, les 2v2, les 3v3, les 4v4, les combinaisons et tout. Là, faudra genre une bonne promo qui tâche, bien trash talk avec une grosse brawl et puis direction SummerSlam et ce sera très très bien comme ça et on va s'éclater. Donc voilà.
Effectivement, je te rejoins. Voilà, on a un peu épuisé toutes les configurations possibles. Là, ils ont réussi quand même à nous proposer quelque chose d'original avec quelques spots plutôt sympas. Voilà, on a envie d'avoir le gros moment. Là. Cette grosse promo là, ça pourrait être sympa. C'est comme des beaux talkers là, les frangins Uso d'un côté, les Street Profits de l'autre. Ça nous rappelle voilà les belles promos qui ont déjà eu lieu hein, avec les New Day ou même The Bar. Il y avait toujours des belles confrontations avant les gros pay-per-view. Qui se terminait parfois en grosse bagarre, en grosse brawl générale. Et puis, comme tu l'as dit, hein, que cette affaire se règle une bonne fois pour toutes à SummerSlam. Un homme qui va avoir du pain sur la planche, un homme qui va avoir du boulot, du taf à SummerSlam, c'est Theory, notre nouveau chouchou. Il nous a tout simplement sorti une masterclass ce soir. Il était au four et au moulin. Le mec nous a vendu 4 storylines, 4 feuds, 4 matchs en même temps. C'était assez impressionnant. Il arrive, il nous parle du Money in the Bank qui va cacher à SummerSlam, que ce soit Roman Reigns ou Brock Lesnar, il s'en fout. Il a bien vu hein, Brock Lesnar écraser American Alpha la semaine dernière. Il nous rappelle aussi que il sait pourquoi tout le monde en a après lui. Personne ne l'aime. Ils sont tous, ce n'est que de la jalousie. Tout le monde est jaloux de Theory. Que ce soit Madcap Moss, Brock Lesnar, Roman Reigns, AJ Styles, puisque ce soir il y a un match contre AJ Styles, ou même Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui s'est glissé là-dedans alors que le pauvre ouais. Theory, il a déjà 5 mecs, dont les deux buffs, là, les Brock ouais. Lesnar. Et...
c'est Madcap Moss qui devait être content d'être cité dans la liste.
Oui.
Là.
Au début, je me suis dit, pourquoi il parle de Madcap Moss? C'est vrai, il avait eu un match contre lui la semaine dernière. C'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu parles de Brock Lesnar, Roman Reigns, Madcap Moss et Jessal. C'est quoi cette liste?
C'est le mont Rushmore de la WWE.
C'est le match totalement random sur le jeu de vidéo WWE 2K. Quoi, pourquoi tu as Madcap Moss qui se retrouve là-dedans? Voilà, une grosse promo là, de très intense hein, de Theory qui nous impressionne hein, chaque semaine. AJ Styles débarque, il dit bah voilà, en fait on t'aime pas, c'est pas parce qu'on est jaloux, c'est parce que t'es un gros jackass. Il dit mais pourquoi voilà, qu'est-ce que tu fous là? Moi je suis le plus jeune, regarde-moi ça, là j'ai 20 ans, 21, 22 ans, je me sais plus quel âge il a, peut-être 24, allez.
24, ouais, il a 24.
Voilà, j'ai 24 ans, je suis le plus jeune champion US, je suis le plus jeune Money in the Bank. Toi, à mon âge, t'étais où? Tu faisais quoi? T'étais dans les coins bouseux de la Géorgie, là.
Ouais, tu catchais contre des fermiers pieds nus. Ouais. Ah, j'ai explosé de rire quand il a dit ça.
Balancer tes coups de coude, là, ton phénomène à forearm sur des garçons de ferme dans la boue avec les cochons. De quoi tu viens me parler là, vieux crado? Et on dit ouais, bah je suis là pour t'apprendre le respect. Et paf, pif, paf, poum. Il l'attaque. Et puis on a un match avec, je crois, ouais, Dolph Ziggler était là pour regarder le match. Alors Dolph Ziggler, il me faisait marrer parce que chaque fois que t'avais la caméra sur Dolph Ziggler, il faisait cette tête là où t'es en train de regarder, genre très sérieux, genre toi en train de mesurer un petit peu ce qu'il attend avec Theory, cette storyline qui est en stand-by, qui a été, t'as l'impression qu'ils ont dégainé un gun Dolph Ziggler un peu trop tôt parce qu'il est ouais, sur le vrai. Banc là. Il est sur le banc. On a eu donc un match entre AJ Styles et Theory avec tout ce qui un match assez solide, assez classique. Là, le Calf Crusher qui envoie Theory qui est obligé d'aller chercher les cordes. Ça se retrouve à l'extérieur. Theory balance AJ Styles sur la table des commentateurs. Évidemment, on se rapproche de Dolph Ziggler. Hein. Et puis, quand on retourne sur l'extérieur, Styles bump sur l'arbitre et Ziggler en profite pour placer un gros super kick pour déclencher le décompte à l'extérieur. Hein. Le pauvre Theory ne parviendra pas à retourner sur le ring avant le compte de 10. Écoute, je ne suis même pas sûr d'avoir rendu justice à tout le travail acharné et incroyable qu'a accompli Theory ce soir à Tampa. Quel homme, il a grandi, hein. Il est passé de jeune, d'enfant ouais, à ado à un jeune homme. Là. Il est prêt.
Bah écoute, en tout cas, ça commence à être difficile de lui trouver des défauts. C'est vrai que... Je trouve que il a été exceptionnel ce lundi. Chaque semaine, en fait, j'ai l'impression de le voir grandir d'un an, quoi. Enfin, en termes d'expérience, je trouve que c'est assez fulgurant et assez incroyable. L'éclosion à laquelle on est en train d'assister depuis 3-4 mois. Je serais le premier à dire que, enfin. Que ce soit fin d'année dernière, enfin, quand il a débarqué, je mettais pas un gros copec sur lui, hein, concrètement. Et alors, je suis très très heureux de m'être trompé, parce que c'est tout simplement. Je pense qu'on est en train d'assister vraiment à l'explosion d'une potentielle vraiment superstar pour les 10, 15 prochaines années à la WWE, parce qu'il a tout. En fait, il a tout. Il a la gueule, le physique, la promo, l'attitude, les sortes de charisme naturel qu'il est en train de montrer. Il a gommé vraiment tous ses défauts très vite, je trouve, depuis qu'on lui a filé ses promos. Parce que là, ça commence à faire beaucoup de promos seul, micro en main au centre du ring qu'il a depuis maintenant quelques mois. Alors qu'avant, voilà, il faisait beaucoup de segments backstage, de choses comme ça. Là, maintenant, il a les promos en milieu de show, micro en main pour hyper, comme tu l'as dit, limite quatre feux dans le même temps. Le mec, il hype le main event de SummerSlam, il hype son match, il hype les feux et tout. Il fait tout ça et il a gommé tous ses défauts qui étaient, je trouve, d'aller un peu vite dans son discours. C'est-à-dire que tu sentais qu'avant, il avait toutes ses promos dans la tête, il récitait, il respirait pas forcément, il laissait pas forcément le temps au public de jouer un petit peu avec lui aussi.
Il y avait les chants WAP, ouais. Il prenait le temps, il arrêtait de
Tu vois à quel point, t'as l'impression à quel point, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, il rembarrait les chants, les WAT, il jouait avec, à un moment, même il rebondissait dessus, il dit, je vais vous dire what's up, enfin, genre, je vais vous dire what, je vais vous dire ce qu'il y a, c'est que je suis, c'est pour ça que vous me détestez tous, il est parfait dans son rôle, et derrière le match était nickel chrome, bon, bien aidé toujours, hein, voilà, AJ Styles, c'est une assurance tout risque, c'est difficile de faire des mauvais matchs avec AJ Styles, donc super opposition, très, très smart de lui envoyer AJ Styles dans les pattes, très très bon adversaire, de la même manière que c'est très très smart aussi de lui envoyer Dolph Ziggler. Moi je trouve que c'est fantastique, j'applaudis autant le travail de Theory que le travail de la WWE avec Theory, parce que ce qu'ils font depuis 2-3 mois avec lui, c'est vraiment une masterclass. C'est cette lente ascension vers l'intérêt du public là, avec son titre US, avec Bobby Lashley, et puis ce switch là vers le Money in the Bank, et maintenant le fait de lui potentiellement lui envoyer du Dolph Ziggler, du AJ Styles, des mecs avec qui il pourra jamais faire de mauvais matchs, avec qui il va forcément briller, et avec lesquels il va pouvoir avoir des super joutes verbales. C'est très très malin. Donc ils prennent leur temps. Et pour l'instant, il leur rend bien parce que voilà, super promo, le mec sait tout faire. Et puis en plus, j'ai bien aimé là, à la fin de leur promo où c'est le fait que ce soit AJ Styles qui s'énerve. Je trouve que c'est bien vu parce que ça va bien avec. Alors déjà, ça va bien avec le personnage d'AJ Styles depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'enfin, on voit aussi un AJ Styles qui arrête de se laisser marcher sur les pieds depuis ses feuds avec Rollins et Edge où il lui réclamait tout le temps de « Arrête, on veut voir le vrai Pitbull, on veut voir... on en a marre du AJ Styles qui sourit, qui dit « C'est pas grave » et tout, machin. Donc là, voilà, en fait, il en a marre de se faire casser les roubignoles, qui plus est par un petit jeune. Donc il a perdu son sang-froid et il lui a collé une mandale. Et ça colle parfaitement avec le côté tête à claque de Theory, où c'est vrai que t'as juste envie, c'est de lui en coller une quand il commence à parler, quoi. Donc tout ça était bien fichu. Non, c'est rien d'autre à dire, c'est parfait. Et j'ai très, 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 très hâte de voir le rematch pour le titre US, parce que c'est vrai que Bobby Lashley, tu vois, en fait, avec tout ça, Bobby Lashley est presque un peu sorti du.
Mais oui.
Donc, c'est peut-être le seul défaut. La semaine prochaine, il faudra peut-être quand même peut-être les remettre un peu l'un face à l'autre. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer à SummerSlam, parce qu'il peut se passer tellement de trucs pour Theory.
Theory, il est déjà, t'as l'impression d'être déjà, il est déjà dans le futur.
Il est à tous les étages de la fusée, quoi. Il a un match à SummerSlam et il a déjà presque trois feux derrière qui l'attendent, quoi. C'est incroyable.
Ouais, limite, on voit déjà presque les ceintures autour de lui. En plus, c'est assez. C'est assez incroyable cette transformation et tout ce qui s'est passé avec Theory. Écoute, tu l'as bien résumé. On l'a bien résumé. Le mec, ils ont confiance entièrement en gars. Les gars prouvent chaque semaine qu'ils ont eu raison. Ils ont raison de parier sur ce mec qui est un mec talentueux et bien entouré en plus. Donc, on entoure, tu l'as dit, c'est important. On entoure bien un mec sur qui on veut miser.
Exactement.
C'est Theory. Theory, c'est l'avenir. L'avenir, c'est maintenant. Par contre, là maintenant, mon Wojciech, on va parler de quelque chose d'autre. Hein. Un peu moins excitant, on a eu un match, un 3v3 féminin. Je ne sais même pas vraiment pourquoi. On a eu ça.
Je ne savais pas non plus, je pense, mais oui.
Voilà, Asuka, Dana Brooke et Alexa Bliss ont affronté Nikki, Sage, Tamina et Doudrop. Au bout de 2 minutes, Tozawa est apparu d'en dessous du ring pour choper le titre 24-7 à Dana Brooks. On est suivi un échange de roll-up, là. Alexa Bliss, Nikki, Doudrop, Tamina et à nouveau Dana Brooks qui se sont chopés le titre. Et puis tout ce bordel a permis à Asuka de placer le armbar sur Nikki et d'offrir la victoire à son équipe. C'était nul.
C'était nul, voilà, c'était nul. Mais je saurais même pas. Enfin, c'est-à-dire, quand tu dis c'était nul, moi, c'est mon hypothèse, je te fais confiance, parce que j'ai même pas. J'ai vu l'annonce du match, j'ai avancé directement le lecteur vidéo de 15 minutes, donc je peux pas te dire ce qui s'est passé.
En fait, c'était idiot, c'était pas nul, c'était idiot.
Ouais, c'était. Donc, si j'ai bien compris, il y a eu un bordel avec la ceinture 24/7 dedans.
Voilà.
Je sais pas, ça me déprime, parce que voilà, tout le monde va dire, enfin, c'est ok, j'aime pas trop le catch féminin, d'accord, certes, et tout, bon.
Ah là, t'étais pas aidé, là, avec ce match-là, c'est sûr.
Mais le truc, c'est qu'en plus, moi, j'aime pas, mais j'ai envie, hein, potentiellement, j'aimerais bien, c'est juste que c'est de la merde, moi, je peux rien faire, hein, c'est de la merde, je ne sais pas, en fait, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est fait comme ça. Mais cet épisode cristallise un peu plusieurs semaines ou mois d'énervement, j'en sais rien. Mais fondamentalement, quand je suis le lendemain du visionnage et que j'en parle à froid, je me dis, enfin, en fait, c'est la même chose depuis 10 ans. Parfois, il y a des moments de folie. Il y a eu les Charlotte, Becky Lynch, Ronda Rousey, WrestleMania. Sacha Banks, Bayley, les Forcewoman, c'est fantastique tout ça. Mais en fait, quand tu sors de ça, et moi, c'est ça qui me déprime, on en a beaucoup parlé sur le Discord. Quand tu sors du match pour le titre chez les filles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, tu regardes Monday Night Raw. Alors, ok, il n'y a pas de titre secondaire dans la division féminine. Surtout maintenant, il n'y a plus les titres par équipe avec ce qui s'est passé avec Naomi et Sacha Banks. Donc, ils n'ont pas de ceinture par équipe. Ils n'ont pas d'équivalent du titre US, du titre intercontinental. Mais ça, les hommes, ça les, enfin, a priori, ça les arrête pas pour écrire des trucs pour eux. Qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? On a eu le Judgment Day avec les Mysterio. On a eu le KO Show avec Matt Riddle, Seth Rollins. On a eu l'histoire avec dont on va parler après avec le Miz, Logan Paul. On a eu, enfin, c'est à tous les étages de la carte chez les hommes, il peut se passer des trucs sans ceinture, mais chez les femmes, jamais, jamais. Ça fait 10 ans, 15 ans, peut-être, je sais pas, moi je regarde le cash depuis 15 ans, jamais, il se passe jamais rien. Il n'y a pas d'histoire de mid-card, il n'y a pas d'histoire de low-card, il y a un titre, il y a une challengeuse, elle perd, ok, on va faire un six-pack challenge la semaine prochaine pour savoir qui est-ce qui va aller voir la championne dans 4 semaines, et on recommence, et on va au shaker, et donc là, bon bah écoute, cette semaine, ils ne savaient pas quoi faire, donc ils ont pris 6 nanas, ils les ont mis dans le ring, ils se disent débrouillez-vous. De toute façon, personne n'en a rien à foutre, on n'en a rien à foutre, et en fait c'est ça, voilà. Et je ne comprends pas pourquoi c'est fait comme ça, alors que soi-disant le catch féminin c'est important, c'est fantastique, il faut promouvoir les femmes, machin. Moi j'y peux rien si j'aime pas le catch féminin, je considère que j'y peux rien. Quand je vois un truc comme ça, je me dis mais en fait je vais voir autre chose, hein. c'est pas grave. Moi maintenant je regarde les émissions de Raw en squeezant les segments féminins, hormis Becky Lynch, et je m'en porte très très bien.
Oui, bah, t'as raison, pour ton foie, là, c'est mieux, hein, de toute façon.
Ouais.
Parce que là, effectivement, voilà. il nous saoule avec cette histoire de, bah, si t'es pas dans le main event, si t'es pas autour de la ceinture, t'existes pas. Donc, effectivement, c'est, enfin, toi, là, la pauvre Asuka, elle, qui était dans ce qui semblait être une rivalité avec Becky Lynch, je dis bah voilà, il va y avoir peut-être plusieurs histoires, peut-être même nous mettre de l'Alexa Bliss là-dedans. Finalement, même
il pourrait faire tellement de trucs. Alexa Bliss, elle est bourrée de talent, Asuka aussi. Dana Brooke, Nikki H, c'est pas des mauvaises catcheuses. C'est intéressant d'ailleurs. Rejoignez le Discord, venez discuter avec nous. On débriefe les émissions, on rentre plus en détail dans certains sujets qui peuvent vous intéresser et tout. On a eu des discussions très intéressantes cette semaine, mais c'est vrai que tu en viens à te demander en fait qu'est-ce qui se passe au centre d'entraînement, dans les house shows, en coulisses, pour qu'ils leur confient rien à ce point-là. Est-ce qu'elles sont vraiment toutes nulles? Hormis les quatre meilleurs de la division, les quatre horsewomen, là, je sais pas quoi, et on se paluche là-dessus, là. Et elles sont toutes nazes, en fait, pour qu'à aucune d'entre elles, on soit capable de leur confier un pouillem de segments à la Ezekiel qui change de personne. Enfin, Ezekiel, c'est pas le catcheur de l'année, bah pourtant, le mec, voilà, on lui file un angle, il se débrouille pour en faire quelque chose, et c'est rigolo, et on s'est bien marré pendant 3-4 semaines, et puis après, il retourne en low-card. Il n'y a jamais des trucs comme ça, en fait. C'est plus ça qui me déprime pour elle, en fait. Ou alors, peut-être que peut-être que le constat est pas bon. Je dis ça me déprime pour elles, mais peut-être qu'en fait elles sont nulles et qu'elles méritent pas. Peut-être qu'on leur propose peut-être des trucs en coulisses, mais au moment des répètes, les mecs ils voient que c'est de la merde et ils disent bon bah non, on laisse tomber quoi. Peut-être que c'est ça aussi. Hein, je peux pas dire. Mais il se passe tellement rien à l'écran que du coup je sais pas comment analyser ça. Quoi.
Ouais. En fait, c'est, comme tu dis, c'est difficile. On n'a même pas vraiment beaucoup d'indices pour essayer de se faire un avis sur le sujet. Toi, c'est difficile. Comme elles n'ont pas de temps d'antenne, comme elles n'ont pas d'histoire, comme elles sont à peine testées sur des trucs, on a juste des légers aperçus de temps en temps de ce qu'elles pourraient être. Donc, ça reste que des potentiels. On vit dans un monde de « et si, et si, et si ». Au final, on ne sait pas vraiment. C'est très difficile à dire. Toi, on parle d'Ézéchiel. Un Ézéchiel, là, tu te dis, voilà, il a un programme, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on pourra se faire vraiment un avis en se disant, ouais, ce mec, en fait...
Ah ouais, c'est ça.
Ah ouais, non, il est nul. Ça fait 3-4 fois qu'on lui donne sa chance. À chaque fois, il se plante.
On lui a donné un personnage. Tu vois, on lui a donné un vrai personnage. Alors après, je connais pas comment ça se passe. Moi, je suis pas dans les coulisses. Je sais pas comment ça se passe. À quel point, par exemple, le personnage d'Ézéchiel, c'est une idée qui vient de lui. Il l'a proposé. Alors, est-ce que les nanas ne proposent rien? Je sais pas. Tu vois, je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'on lui a imposé la gimmick et du coup, il l'a transformé en quelque chose de fun? Mais des histoires comme ça chez les hommes, il y en a plein. Tu vois, tu peux repenser il y a 10 ans, parce que ça doit bien faire ça maintenant. Mais le New Day quand ça a démarré, c'était un traquenard sans nom. Ce truc-là, tu te demandais, tu te disais mais oh les pauvres putain le truc qui se ramasse. Bon, mais n'empêche que il s'est passé un truc pour eux et un concours de circonstances, le talent, une rencontre avec le public et tout, ça s'est transformé en un truc légendaire. Mais après, sans partir dans des extrêmes comme ça, je sais pas, il y a des histoires qui me viennent de mid-carder, de low-carder. Tu peux penser à ce qui s'est passé il y a quelques années, je sais pas, avec par exemple Cesaro et Sheamus. On les avait collés dans un truc foireux. Ils avaient pas de programme. On s'est dit, tiens, vous allez vous affronter 7 fois.
Ah ouais, parce que folie et tout.
Et vous allez vous affronter 7 fois. Et
à l'époque, valait mieux final, dans une histoire avec Mick Foley, quoi.
Et au final, ça s'est transformé en The Bar et c'était incroyable. Et parce que, mais le truc, c'est que peu importe de savoir si c'est le talent de Sheamus ou Cesaro, ou c'est une idée peut-être de génie des bookers et ça s'est transformé, machin et tout. Mais le truc, c'est qu'il se passe des trucs comme ça, tu vois, pour que ça se transforme potentiellement derrière et faire en sorte que Sheamus, Cesaro, après, derrière, ce soit devenu une équipe quasiment pas de légende, c'est un peu fort, mais tu vois, c'est quand même de ces dernières années, c'est devenu une énorme équipe à la WWE. Et c'est des petits trucs comme ça. En fait, comme il n'y a jamais de graines plantées, il n'y a jamais d'histoire, il n'y a jamais de programme, il n'y a jamais de chassés croisés et trucs, ça veut dire que dans 6 mois, si tu fais un package vidéo pour hyper un match pour le titre et tout, t'as rien à mettre dedans. T'as rien parce qu'il ne s'est jamais rien passé. Et donc, c'est une sorte de cycle sans fin, de spirale négative, ou de toute manière, tant que tu ne feras pas l'effort, c'est pour ça que je ne leur jette pas complètement la pierre aux filles, parce que à la limite, je m'en fous, même si c'était nul. J'aimerais bien voir au moins des histoires, tu vois. Même si c'était nul, au moins, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir essayé. Mais là, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien.
Et là, il y avait quelque chose pour nous montrer qu'il n'y avait rien. Et c'est ça le pire.
Voilà.
C'est en plus, ils nous le montrent.
Là, on avait le néant face à nous, là. Ouais, c'est ça, exactement.
Bon, écoute, c'était pas le main event, heureusement, pour toi, mon bois Giscal. On a terminé sur une bonne note. Un Miss TV. Je sais que tu adores les Miss TV. Et ce soir, en plus, on a un invité prestigieux. J'adore. Logan Paul, célébrité du web, du YouTube, il a changé le social media game. Écoute, Logan Paul, il y va pas par quatre chemins, il arrive direct, il était un peu, il était sous drogue, c'est pas possible quoi. Il arrive, il fait, ouais, Miz, accepte mon challenge pour SummerSlam. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Calmez-vous, monsieur. D'abord, regardons un petit récapitulatif de ce qui s'était passé. Donc, on nous voit un petit peu, voilà, le match à WrestleMania, la trahison du Miz. Il dit, voilà, c'était une leçon que je t'avais donnée. Et maintenant, je vais une... Oui, je réponds, je veux mon match. Je fais, mais non, voyons, Logan ne le prend pas comme ça. Écoute, toi et moi, on a beaucoup de points communs. Logan Paul dit, ouais, effectivement, voilà, moi, j'ai construit ma carrière sur ma réussite. Hein, j'ai changé, parce que je disais, hein, j'ai changé le social media game. Moi aussi, j'étais un underdog. Et Miz dit, mais non, je veux toujours pas ce match. Alors, Logan Paul, il dit, écoute, si c'est comme ça, ça va mal se passer. Il dit, mais attends, c'est... on est au Miss TV là, qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas au Logan Paul TV, ce bordel. Alors, Logan Paul commence à donc il dit, écoute, ce qui va se passer, c'est que la semaine prochaine, je vais faire mon propre show. Et puis, et puis d'ailleurs, il lui rappelle qu'il a des petites couilles de toute façon. Elles sont minuscules, tes couilles, tes coucougnettes. Il dit, mais non, moi j'ai des grosses couilles. Alors, j'imaginais Giscard se plier de rire, là, se fondre la poire devant ce segment. D'ailleurs, il nous sort, il a une preuve, il a un t-shirt, il nous dévoile un t-shirt. Mes couilles sont massives. D'ailleurs, qui est en vente dès maintenant sur le shop à 27$. Hein, avec le cours de l'euro, ça va vous coûter cher cette bonne blague. Et puis l'autre il dit je veux pas de ce match. Donc il envoie. Je sais plus si c'est à ce moment qu'il accepte le. Il accepte le match parce que l'insulte ouais. était de trop.
Ah, c'était trop.
La colère l'a pris sur le dessus. Le match, le challenge est accepté. Mais voilà, petit coup de roublard. Ciampa qui attaque pour Logan Paul, qui arrive à se barrer. Et puis ça se termine comme ça, mon bon Giscard.
Eh bien, écoute, ouais, j'ai trouvé ça très divertissant. Écoute, est-ce que c'est le segment que j'aurais mis en main event? Ça, je ne sais pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le segment en tant que tel, j'ai trouvé ça top. Logan Paul, c'est un peu un cas d'école. C'est un cas assez frustrant pour moi parce que je méprise vraiment beaucoup. Enfin, pas la personne en tant que telle, je ne le connais pas, mais ce qu'il représente. Parce que c'est vrai que c'est un peu tout ce que je déteste dans la création de contenu sur YouTube et le phénomène qu'il y a pu avoir en effet ces 10 dernières années sur ces mecs qui font n'importe quoi, qui font des vidéos d'épileptiques un peu là et du contenu un peu stupide. Enfin, ils arrivent à monétiser en fait sur l'intérêt des gens pour des choses complètement stupides, je trouve. Mais bon, bah tant mieux pour lui entre guillemets. Hein. C'est vrai que c'est le discours de certains aussi. C'est sans doute le sien. Mais à côté de ça, ça reste quelqu'un à qui on peut vraiment pas reprocher de pas se donner les moyens de ses ambitions. En effet, il l'a dit dans sa promo d'ailleurs, sa promo qui était plutôt bonne. C'est pareil, hein, lui aussi. Bon après, lui, il a l'habitude hein, de parler devant des gens. Il tient un podcast, il fait énormément de show TV aux États-Unis. C'est quand même un mec qui commence à peser assez lourd quand même. En effet, hein, sur les réseaux sociaux, dans la jeunesse américaine. Donc bon, au niveau charisme et promo, il n'y avait pas de souci, mais en tout cas voilà, il s'est très très bien débrouillé. Et son passage sur le fait que bah voilà, ce mec, ok, peut-être qu'il fait de la merde, on n'aime pas ce qu'il fait et tout, moi j'en fais partie, mais il y a un truc que tu pourras jamais lui reprocher, c'est que c'est des gars comme ça, quoi qu'il arrive, ça reste des gros bosseurs, ça reste des mecs qui ont une volonté de faire, c'est des champions dans leur tête, et tout ce qu'il a voulu faire jusqu'ici, il s'est donné les moyens de le faire. Que ce soit ses podcasts, ses matchs en effet contre le mec, il a quand même catché contre Mayweather en boxe, il a fait WrestleMania et il a pas fait WrestleMania en touriste, il s'est entraîné comme un fou furieux et il a fait un match assez dingo. Donc voilà, tu peux pas lui enlever ça et en effet c'est les arguments qu'il avance et la promo elle sonnait, elle était assez intéressante, hein. c'était vraiment sympa. Et le Miz toujours excellent de toute façon dans ses promos où il faut à la fois se mettre en avant et mettre son adversaire en avant, il est très 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 fort là-dessus et j'ai bien aimé ce jeu là de dire attends, écoute gamin, attends, ok, t'es vénère mais essaye de comprendre pourquoi j'ai fait ça, je voulais t'enseigner ce que c'est que la WWE, voilà, c'est ça, c'est un monde impitoyable, il y a une hiérarchie, il y a une chaîne alimentaire à la WWE, pour l'instant t'es un rookie et tout, enfin je trouve que c'était assez stylé. Et d'ailleurs, je pense que, et ce que j'ai bien aimé dans cette promo, c'est que je trouve que ça continue à garder des pistes ouvertes. C'est-à-dire que là, pour SummerSlam, évidemment, on est parti pleine balle, sans mauvais jeu de mots, vers le match Logan Paul-Miz. Mais voilà, ce côté tutorat, mentor pour la suite et tout, je me dis, c'était bien de continuer à jouer vachement là-dessus, parce que ce serait pas complètement non plus déconnant hein, de peut-être revoir cette équipe à l'avenir, donc qui marche plutôt bien, je trouve. C'est deux enfants des réseaux sociaux, ces deux-là, enfin en tout cas de deux époques différentes.
Bah, d'ailleurs, le Miz a mis en parallèle leurs deux
Bien
lors
sûr,
de trajectoire, ouais, lors de parcours. Hein.
Ils ont beaucoup de points communs d'une certaine manière en termes de work ethic, de parcours, d'origine, à des générations différentes. Donc c'est marrant parce que c'est un choc de génération de choses assez similaires. Et donc voilà, pourquoi pas voilà, continuer là-dessus un peu sur le long terme. En tout cas, segment très bien exécuté. La blague sur les couilles, tu en as parlé, moi ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire le t-shirt. Je continue à être extrêmement client de ça. Et l'arrivée de Ciampa, qui est quand même un peu bizarre, ça, ce Ciampa qui est dans l'entourage du Miz. Alors lui, pour le coup, il n'a rien à voir avec les deux. Hein,
mais... Vu qu'il a fait le Ciampa au Sam.
Ouais.
T'as une vraie cheerleader, ouais, ce Ciampa.
C'est vrai que c'est un peu chelou. Mais bon, écoute, allez, soit. Donc, très bon segment de hype. Le match attraction spéciale SummerSlam est booké. Bon, on a aussi Pat McAfee par ailleurs, mais donc c'est du match typique de SummerSlam. C'est très très bien. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
C'est l'heure du mot de la fin, Giscard. Nous sommes arrivés au bout du bout du bout du bout de cet épisode de Monday Night Raw. Ça va être donc l'heure de partager ton top, ton flop et ta note pour cet épisode qui avait lieu, je vous le rappelle, à Tampa, en Floride, la maison de Titus O'Neil, notre ambassadeur global dorénavant, Giscard.
Eh oui. Alors, je vais concis sur le mot de la fin, parce que je suis quand même pas mal étendu sur tous les sujets cette fois, mais donc, du coup, ça m'évite comme ça de revenir en conclusion. Donc, mon top, Austin Theory, il n'y a pas de doute, enfin, Theory, exceptionnel, masterclass, c'est fantastique, c'est fantastique, voilà, j'ai vraiment, c'est déjà d'ores et déjà la révélation de l'année 2022, sans hésitation pour moi, et j'ai très 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 hâte de voir si ça va continuer aussi fort pour la suite de l'année. Parce qu'il a tout. En tout cas, il est en train de démontrer qu'il a tout et il est en train de démontrer que on a eu raison de lui faire confiance. Mon flop, écoute, voilà, vous avez compris, je vais le donner au booker, plus au booker qu'aux femmes, hein, mais au booker qui s'occupe de la division féminine, d'ailleurs, si tant est qu'il y en ait. Et donc c'est un flop théorique en fait. Je me dis, peut-être que ça s'adresse à des gens, mais peut-être que ces gens n'existent pas. Et donc auquel cas, je sais pas à qui donner mon flop. et ma note, écoute, je zappe les segments féminins. Et donc partant de là, j'ai passé un très très bon lundi soir. Je vais donner un 3,75 à ce Raw qui m'a beaucoup plu. Puisque si tu occultes ce 3v3 et que tu gardes, on va dire, le bon grain de livret de l'introduction, j'ai eu un Raw qui m'a bien hypé pour SummerSlam, qui a bien développé des choses un peu partout. Je trouve que tous les segments avaient un intérêt et un développement, et donc je dis que j'en veux plus, moi, des Raw comme ça, avec mes œillères, voilà.
c'est peut-être la solution, hein, c'est peut-être la solution. Je vais te donner l'avis de tonton. Après, on va dire que je censure. Mais non, je suis un homme nouveau, j'arrête de censurer. L'avis de tonton qui nous dit top théorie. Donc, 5 fois, hein, il donne son top à Theory. Le flop, le Judgment Day. J'ai cru que ce clan allait être l'attraction de l'année avec Edge. Et c'est en train de devenir quasi pire que Retribution. Donc, il n'a pas eu la petite lueur d'espoir que tu as vu, toi.
On va pas s'emballer non plus. Hein, mais...
Non, mais bon, il a quand même mis son flop et il a enterré définitivement le Judgment Day, quoi.
Terminé.
Allez, peut-être, la fin nous dira sûrement qu'il avait raison, mais voilà.
Oui, il y a des chances.
Un bon coup de pelle. Allez, note Raw assez attractif, je lui donne un 3. Voilà, donc il reste sage. D'ailleurs, il a partagé les ratings, le bon tonton, c'est l'homme des chiffres. Écoute,
les ratings.
Il balance des ratings, il me dit, mais alors c'est bon ou c'est pas bon? Parce que moi, j'en sais rien. Toi, il me dit, c'est stable. C'est bon ou c'est pas bon? C'est stable.
Bon, bah si c'est stable.
Bon, bah écoute, oui, merci. Oui, docteur. Il dit qu'on aurait pu s'attendre à une montée des ratings, étant donné qu'il n'y a plus de concurrence frontale avec, c'est vrai, les finals de la NBA, ça s'est terminé. Mais le show rouge reste dans sa moyenne habituelle. Donc, on est aux alentours de 1,7 million, 1,8 million. Pour de personnes qui regardent ce show rouge, et nous on est dedans, même si là en l'occurrence on n'est pas compté. Moi, ouais. Mon top et mon flop, c'est exactement les mêmes que toi. Je crois là, Giscard, il y a le top, la façon c'est de Theory. Je pense que là il est parti pour rafler la mise. Et mon flop, c'est pareil. Bon, je donne ce segment féminin. Et c'est vrai que cette histoire de Booker, c'est assez. Assez on se pose des questions sur ce qui se passe. Et puis ma note, oh, je vais peut-être faire pareil que toi, je vais dire que je fais tout pareil que toi. Mais moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Je suis presque tenté de donner un 4, mais. Je sais pas.
Hein. Ouais, moi, j'ai voulu mettre 4, mais je me suis dit non, c'est pas honnête parce qu'il y a quand même y a les œillères qui comptent.
Ouais,
alors.
Ouais, je pense que je vais faire comme toi, mais on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Hein.
Ouais,
parce
ouais.
que cette théorie-là, il.
Je te dis, c'est la décote de 0,25, c'est les œillères parce que c'est pas très confortable à mettre. Ça me fait des marques sur les tempes et tout, c'est chiant. Mais ouais.
Allez, je te rejoins 375, tout pareil. Ouais, exactement, un vrai copycat. Pour cet épisode du 18G de Monday Night Raw. Catch-up, c'est évidemment votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. C'est simple et c'est gratuit. On est sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. On est également sur YouTube pour la version vidéo avec la section commentaires. N'hésitez pas à balancer votre top, votre flop et votre note. Nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode de Monday Night Raw. Les réseaux sociaux, Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram, le Discord. Tu en as parlé, Giscal, le lien et dans la description, n'oubliez pas, la semaine prochaine avec le Go Home Show, ça annoncera également la réouverture des pronostics. Les pronostics, est-ce que ce SummerSlam va enfin couronner un champion mondial, un champion poids lourd des pronos ? Est-ce que Sam va conserver son titre de champion roll-up ? On le saura très bientôt dans 10 jours. Rendez-vous pour SummerSlam. Je te remercie, Giscal, pour ta présence et ton analyse.
Grand merci de m'avoir accueilli, Irem, et merci pour cette présentation, encore une fois, fantastique.
On vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, et d'ici là, on vous souhaite évidemment à tous et à toutes une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao, tout le monde.
Il y a une couille massive dans le potage de la division féminine.